What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, wounded, sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Venose fatti fissi. Come fatti fissi.
Cinéphiles de tous les pays, unissez-vous. Non, que dis-je ? Cinéphiles, bouffants, pouffants, amants ou complètement cramés, bienvenue ! Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le studio avec Violetta. Bonjour Violetta.
Bonjour.
Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et Didier.
Bonjour.
Et bien sûr, derrière les manettes, Sylvain.
Salut.
Alors on va parler des films L'Enlèvement, Complètement cramé, La passion de Dodin Bouffant et Le syndrome des amours passés. Peut-être un mot sur d'autres films dont on a déjà parlé, on verra bien. Mais on commence tout le temps avec L'Enlèvement.
Edgardo.
Sono io.
Io sono il padre di Edgardo Mortara.
È inutile discutere. Un battesimo non si può annullare.
Chi l'avrebbe battezzato di nascosto da noi?
Suo figlio non è più ebreo. Suo figlio è cristiano.
Mi toglieranno la testa, papà.
Ti faranno niente.
È Gesù crocifisso.
Ma dorme?
No, è morto.
Lo hanno ucciso gli ebrei.
Figlio mio, Edgardo, questa è la tua famiglia adesso.
Lo riempiono di bugie.
Amen.
L'enlèvement de Marco Bellocchio. Didier, tu es allé voir L'enlèvement.
Oui, et c'est un très grand film. On va commencer comme ça, déjà. C'est un très, très grand film. Donc, c'est le nouveau film de Marco Bellocchio. Qui sera présenté d'ailleurs aux prochaines rencontres des cinémas d'Europe. Allez le voir, vraiment allez le voir. Depuis un certain temps, donc Bellocchio revisite l'histoire de son pays, l'Italie. Et là, il nous replonge au 19e siècle dans une histoire qui était peut-être connue en Italie, mais moi que j'avais jamais entendu évoquer avant. Donc nous sommes en 1858. Un jeune enfant juif de 6 ans est enlevé par la papauté sous prétexte que sa nourrice, à un moment où il était très malade, l'aurait secrètement baptisé. Donc, lorsqu'on est baptisé, pour le pape et pour la chrétienté, on est baptisé pour l'éternité. Et donc, cet enfant n'est plus juif, il est chrétien. Et on le kidnappe. Mais on le kidnappe légalement, puisqu'on est sous l'autorité du pontificat dans une Italie qui n'est pas encore unifiée. Donc c'est assez affreux. Alors, toute cette histoire de l'enlèvement, du départ de l'enfant vers Rome, etc., c'est filmé d'une façon magnifique, comme tout le film. D'ailleurs, c'est absolument somptueux. On a entendu un peu un extrait de la bande sonore dans le film annonce, c'est comme ça tout le temps, il y a une bande sonore extraordinaire. Et cet enlèvement, moi, ça, l'image m'a fait penser, et je pense que c'est volontaire de la part de Bellocchio, m'a fait penser au kid de Chaplin, au moment où, si vous vous souvenez, où le kid est emmené par les policiers, et où il tend les bras, bon, il dit pas papa parce que c'est muet, mais on l'entend, quoi, voilà. Et on a pratiquement la même séquence ici, qui est absolument déchirante. Donc, les parents vont remuer ciel et terre pour récupérer leur garçon. Et cette histoire, curieusement, va être médiatisée dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis. Des chefs d'État vont intervenir pour que l'enfant soit rendu à sa famille, mais le pape, qui est Pie IX à l'époque, ne voudra jamais rien savoir et prononcera la fameuse phrase « non possum ». Voilà, j'ai décidé, donc maintenant c'est comme ça, et vous aplatissez devant moi. Alors, cette, euh, cette attitude est peut-être aussi expliquée par le fait que la papauté commence à être en difficulté et que c'est une façon peut-être pour le pape aussi d'affermir son pouvoir à un moment où il est remis en cause. Donc c'est aussi l'histoire d'un lavage de cerveau, parce qu'évidemment un enfant de 6 ans qui change de milieu comme ça, ça va prendre un peu de temps, mais on va savoir très très rapidement comment le retourner. Et le film qui dure 2h15 je crois est parsemé de séquences, mais qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Il y en a une particulièrement où c'est un cauchemar du pape, un cauchemar au sens propre, où il voit des rabbins juifs qui viennent pour le circoncire. C'est absolument incroyable. On est vraiment plongé là-dedans. Et il y a une seconde séquence, bon, il y en a plein, mais celle-là, elle est profondément marquante, en particulier aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient, où des dignitaires juifs viennent demander, supplier même le pape, viennent lui demander de rendre cet enfant. Et ils vont subir une séance d'humiliation, mais comme on en voit rarement. Quoi. C'est vraiment très très fort. Donc on rentre là aussi sur une question d'antisémitisme. Enfin, ce film est d'une richesse absolument incroyable. Alors, juste pour terminer, le resituer un peu dans l'histoire de l'Italie, puisque c'est au moment où justement l'Italie commence à s'unifier. Elle était jusqu'alors divisée entre 8 royaumes, je crois, dont le royaume de la papauté très peu de temps après ces royaumes vont être unifiés sous le règne de Victor Emmanuel II qui s'installe lui à Rome, et donc le pape perd une énorme partie de son autorité, mais c'est un petit peu tard, voilà. Donc reconstitution époustouflante, mise en scène magnifique, photos splendides, bande sonore vraiment extraordinaire, on la garde en tête très longtemps encore. Donc c'est une fresque historique, un film politique, un drame familial, voire un thriller, c'est absolument extraordinaire, et on se demande pourquoi ce film est reparti complètement bredouille de Cannes. On parlera tout à l'heure de Dodin Bouffant qui est reparti avec le prix de la mise en scène. Bon, pourquoi pas ? Mais franchement, que Marco Bellocchio soit reparti les mains absolument vides avec ce film, c'est assez incroyable.
Il est maudit à Cannes, lui, non ?
C'est possible, oui.
Grande interrogation, effectivement, sur les prix. Donc, c'est à voir en ce moment au Vivarais de Privas. Et puis, évidemment, il sera aux rencontres, tu l'as évoqué, aux rencontres des cinémas d'Europe du 18 au 26 novembre ici à Aubenas. Et il sera aussi au Teil. Eh bien, puisqu'on parle de prix, peut-être pas forcément légitime, ou en tout cas, si ce n'est légitime, on se demande bien pourquoi. Tiens, la passion de Dodin Bouffant.
Tu connais cette sauce ? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans ?
De lard fumé, des champignons.
Tu vas voir la crème fraîche ?
Du carré de veau, s'il vous plaît.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Il y a aussi du paprika et une soupe de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
Parlez pour vous, je me sens en plein été.
Je vous le demande encore, Eugénie, marions-nous.
Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi ?
Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
C'est un peu risqué et audacieux.
Risqué et audacieux. Non, mais moi aussi. Je te pique, Olivier, avec. Mais c'est vrai que donc La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung, qui avait présenté, moi je m'en souviens, L'odeur de la papaye verte en 93, et puis plus récemment La Ballade de l'impossible.
Très, très supérieur, à mon sens, à ce dernier film.
Voilà, avec Juliette Binoche, que vous aurez reconnue, Benoît Magimel, qui a des airs un peu de Depardieu, je trouve.
Non.
Oui. Dans la bande-annonce, mais c'est parce que j'ai pas vu le film.
Non, pas du tout. Non. Il est bien meilleur que Depardieu.
Ah, alors. Mais donc, ce film va représenter notre pays aux Oscars,
Ouais.
Du meilleur film étranger.
Oui, tout à fait, oui. Eh bien, on continue notre leçon d'histoire, parce qu'après la question des nationalismes progressistes à l'époque, hein, italien, l'unité de l'Italie, etc., sous Verdi, Victor Emmanuel, roi d'Italie. On est à la belle époque en France, et on est devant un phénomène, donc on est un peu après, on est au moment de peut-être au sommet de la croissance économique permise par le capitalisme industriel décrit par Marx, ou combien. Donc il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais vraiment. Et souvent d'ailleurs des financiers, même pas des industriels, des financiers, comme Proust, hein, par exemple, parmi les connus. et donc ils organisent des repas à la mesure de leurs moyens financiers, c'est-à-dire c'est démentiel. Et il y a une mode qui se met en place dans la foulée. C'est celle des gastronomes, l'Académie des gastronomes, le Club des 100, enfin, etc. C'est Kurnonsky un peu plus tard. Et donc, ce sont des gens qui ont une connaissance des choses de la table absolument fabuleuse, encyclopédique. Ce sont des savants. Et parmi eux, donc, il y a Marcel Rouff, qui est un auteur suisse, et qui a écrit « La vie et la passion d'Audin Bouffant », paru en 1920, au sortir de la guerre, en version courte, parce qu'il y avait des pénuries de papier, ça laisse rêveur. On passe de 1884, j'ai calculé ça, c'est à partir de l'âge d'Escoffier, il a 38 ans au début du film, donc ça donne 1884. Il y a eu la croissance a débouché dans la guerre mondiale, et la guerre mondiale dans la misère. Et donc, le bouquin du gars ressort en 1924, parce qu'il y a de nouveau un peu plus de papier. Donc c'est assez rigolo. Marcel Rouff, donc, crée le personnage de Dodin Bouffant, qui n'existe pas, mais qui, bizarrement, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est comme s'il existait.
On dit qu'il est quand même très inspiré de Brillat Savarin.
Oui, c'est un peu ça. Moi, je crois qu'il est surtout inspiré de tous ces gastronomes-là. Et Marcel Rouff en a fait une espèce d'exemplaire. Et du coup, on retrouve son histoire au théâtre. Il y a des restaurants qui portent son nom. Les journalistes signent des chroniques gastronomiques de son nom. Ça donnera une série télévisée en 1973, une BD. Beaucoup plus récemment. Ce personnage fictif a fini par avoir l'incarnation, c'est le cas de le dire, d'un personnage réel. Alors le film, il est à l'image, c'est-à-dire qu'il est long, il est plein. C'est un film qui est plein. Moi, il m'a fait l'effet de l'Okusai de Hajime Hashimoto, qui est sorti l'année dernière. Où on avait l'impression de visiter le musée Guimet, puis ensuite le musée de Kyoto, le musée de Tokyo, il y avait tout. Là, il y a tout. Il y a tous les accessoires de cuisine, tous les aliments. On sort même au jardin pour voir d'où viennent les aliments, etc. C'est extraordinaire. On a un exposé des savoir-faire absolument, mais c'est confondant de justesse.
Et est-ce que ça suffit ?
Alors, moi, ça m'a passablement contenté du fait qu'il y a un duo d'acteurs, Juliette Binoche, Benoît Magimel, qui ont tous les deux, quand on regarde, des filmographies assez impressionnantes. Hein. Moi, j'ai pensé à Benoît Magimel dans Revoir Paris, où il jouait un rescapé de l'attentat, de manière très, très juste. Et Juliette Binoche, ça m'a fait penser à son film, à son jeu dans le film de Kieslowski, c'est Bleu, je crois. Donc des acteurs qui jouent en plus, parce que s'il y a un élément qui est intéressant dans ce déploiement de choses, c'est leur histoire d'amour. Une histoire d'amour très originale, très, très féministe, sans militantisme particulier. C'est très beau et c'est très bien joué. Donc de ce point de vue-là, qu'il aille aux Oscars, mais il va falloir que les gens soient assez patients quand même.
Est-ce qu'il y a un peu de sensualité qui se dégage de ce film ?
Pour moi, oui, ouais. Dans une très grande pudeur.
Et Didier ?
Oui, je suis un peu de cet avis. Bon, j'ai quand même trouvé ça relativement long parce que on passe sur 2h15, on passe à peu près 90% du temps dans la cuisine. Mmh. Alors, c'est un peu long. En même temps, c'est vrai que c'est une mise en scène absolument virtuose parce que on a 2, 3, 4 personnages parfois dans une cuisine qui certes est une grande cuisine, mais ça reste quand même une cuisine et qui se passe des casseroles, qui ouvrent des fours, qui mettent du céleri, etc. Et donc, c'est un ballet. C'est permanent comme ça, mais ça en devient presque fatigant pour le spectateur à un moment. Voilà, donc oui, l'histoire d'amour est intéressante, mais je pense qu'elle aurait pu être développée un peu plus quand même, parce que ça reste quand même en filigrane. Oui. Et je pense que là, par contre, en termes de scénario, le scénario est très très léger, hein, et là, il a raté quelque chose. C'est le personnage de la gamine d'une dizaine d'années du couple Pauline. Du paysan d'à Pauline. Côté, Pauline, qui présente de très grandes...
Merci Didier, parce que je voulais en parler et j'avais oublié, merci
de
Didier.
De très grandes qualités. Ouais. À la fois de gastronome et de cuisinière, et que Dodin Bouffant va prendre sous son aile. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle est là, et puis elle goûte et dit c'est bon, c'est pas bon, et il se passe plus rien, et c'est vraiment dommage, parce que là, je crois qu'il y avait quelque chose, un fil à tirer qui aurait été très très intéressant.
Il y a quand même on insiste quand même à la relation pédagogique un petit peu qu'il y a entre Dodin Bouffant et Pauline, et je trouve qu'il est, lui... toujours à la distance respectueuse exacte entre le maître et l'élève, et c'est très beau.
Oui, tout à fait. Puis il est comme ça dans la vie. On voit bien que c'est un homme sympathique, c'est un riche, c'est un châtelain, mais il est plein de respect envers les paysans qui sont autour. Il est jamais habillé comme un châtelain, sauf dans les cérémonies. Et encore, voilà, c'est quelqu'un qui a une passion. Et c'est vrai qu'il y a il y a des clins d'œil dans le film. On voit Pierre Gagnaire qui joue. En quelques minutes le rôle d'un, alors il appelle ça un officier du menu, je sais pas quoi, puisqu'il y a une invitation chez le prince d'Eurasie, où il y a un menu, je sais pas, il y a 40 plats, quoi, donc le Gagnère va débiter tout ce, bon, c'est assez drôle,
3 minutes mais, pour dire le menu, hein.
Voilà. Mais c'est, ça reste quand même, je trouve, quelque chose de très beau, de très beau, mais d'un peu long, et d'un peu superficiel en termes de scénario.
À voir, allez-vous faire une idée au navire à Aubenas, et à la fin du mois, il sera au Regain du Teil. On passe sur toute autre chose.
J'ai soumis votre cas d'infertilité. Voilà.
Merci.
Et je pense qu'on a trouvé la solution.
Ah.
Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie, et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà.
Voilà, on n'en dit pas plus, c'est le début du film « Le syndrome des amours passés » de Anne Siro et Raphaël Balboni qu'on avait eu le plaisir de découvrir l'année dernière avec Une vie démente qui était passée aux Rencontres des cinémas d'Europe et que personnellement j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Didier, ce syndrome des amours passés.
Oui. Alors, j'avais effectivement beaucoup aimé également Une vie démente. Donc, on est chez les Belges, hein, il faut le dire. Et je trouve que là, c'est quand même un peu en dessous. Bon, en termes de synopsis, tout est dit dans le film annonce.
C'est la Suisse.
Et voilà, c'est un peu le problème, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, ça dure 1h30 et il y a une idée, quoi. Et on rebondit toujours sur cette idée. Mais sans amener vraiment beaucoup de choses différentes. Alors quand même, c'est quand même intéressant. C'est une sorte de conte, hein, sur le couple qui aborde avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de tendresse, les tabous, le désir, l'indépendance, la jalousie, l'envie d'enfant, bien évidemment, tout ce qui fait la joie et le déplaisir d'une vie de couple. Et évidemment, ça présente la vie de famille sous un jour un peu inédit, donc qui est drôle une fois, deux fois, alors évidemment on aborde aussi le thème de la jalousie, donc c'est, voilà, c'est belge, c'est assez, ça se veut un peu irrévérencieux.
Voilà, c'est belge.
C'est intéressant, mais ça tourne un peu en boucle, je crois, assez rapidement.
Et une boucle.
Et voilà. Et moi, j'ai perdu un peu l'intérêt à la moitié du film, malheureusement, mais ça reste quand même quelque chose d'assez original qu'on peut aller voir avec un certain plaisir.
Le syndrome des amours passés, c'est à voir en ce moment à Privas et à Rosières. Et puis à noter que dimanche, il sera à 11h à Lussas pour un ciné-apéro proposé par la Maison de l'Image. On lâche tout, on y va.
L'entrée du personnel se fait par l'office, plus loin.
Ah, et...
J'ai mis une annonce pour recruter un employé de maison.
Trop la classe, on dirait un British.
Je suis un British.
Oh, ça va pas être simple. Qui sait ce qu'il nous apportera?
Ah. Je cherchais du réseau.
Et moi, je fais de la broderie avec mes guibolles et je suis Miss France.
Vous n'êtes pas Miss France.
Non, vous n'êtes pas Miss France, mais oui, Violetta, tu es un peu comme notre Miss France ici, le Cinémascope Fréquence 7. Tu as vu Complètement cramé de Gilles Le Gardinier avec John Malkovich, Fanny Ardant et Émilie Dequesne.
Tout à fait. Alors, j'ai pas lu le livre. On retrouve John Malkovich dans ce personnage de Andrew Blake qui va abandonner sa vie londonienne parce que il n'arrive pas à se remettre du deuil de sa femme qu'il a perdu il y a 4 mois. Et il veut retourner aux sources, là où ils se sont connus en fait en France, dans une maison d'hôte. Alors c'est un joli petit château en Bretagne. Et là-bas, la vie, elle s'est retirée. Donc, il va rencontrer des personnes curieuses, en mal de vivre, en mal d'amour, et tout aussi perdues, en fait, que lui. Et donc, cette propriétaire de ce château, là, Nathalie Beauvillier, Odile, la cuisinière autoritaire, Philippe, le régisseur, un peu cramé, justement, c'est comme ça qu'il se présente, Manon, la femme de ménage, qui, elle, est une jeune fille, une jeune femme qui est enceinte, abandonnée par son Julien, qui est paumé sans doute, et rejetée par sa mère, donc elle a été foutue à la porte, et voilà, donc il va se retrouver avec tous ces personnages. Et donc cette Nathalie Beauvillier a perdu son mari, elle, depuis 4 ans. Donc voilà, on retrouve le 4 là, puisque Andrew, lui, il a perdu sa femme il y a 4 mois. Elle est prête en fait à sauver sa propriété par n'importe quel moyen, mais saugrenue. Alors elle reçoit des tas de papiers là, pour répondre à des concours, pour essayer de gagner un petit peu, un petit peu et garder cette propriété. Et lui, Andrew, il va prendre en fait un nouveau départ. Avec toute cette galerie de personnages, là, il va redonner en fait à chacun un sens à sa propre vie, à réapprendre le vivre ensemble, à sortir de leur solitude en fait, et puis surtout oublier ses regrets et laisser libre cours en fait à ses émotions. À un moment donné, je ne sais plus si c'est lui, si c'est Andrew qui dit que, ou si c'est Fanny Ardant qui dit, il faut toujours garder l'espoir, même si on n'y croit plus. Voilà. Et puis, bien sûr, on va retrouver tous les clichés en fait sur les Britanniques. Moi, j'ai trouvé les dialogues hilarants. Surtout quand on voit Andrew, quand il essaye en fait de traduire mot à mot les expressions imagées, Et puis il y a ce château magnifique. Alors c'est une demeure néo-gothique. Il y a dans un écrin de verdure. Alors c'est un peu dommage parce qu'effectivement au niveau des paysages. On ne le voit pas beaucoup, ça. Voilà, c'est un peu laissé de côté. Mais on voit les toits pointus, les tourelles en épi, tout en granit, bien sûr, puisque c'est la Bretagne. Et puis les intérieurs somptueux, des salons, une grande salle de billard, un immense escalier monumental qu'on voit Fanny Ardant descendre majestueusement.
Et alors, pour toi, tout ça, ça fonctionne ?
Écoute, c'est une comédie sympathique. Hein. C'est sûr qu'après des films comme ils viennent de décrire Olivier et puis Didier, Mais enfin, moi, je trouve que c'est un film qui fait du bien. Voilà. Et puis John Malkovich avec son accent très british. Fanny Ardant aussi avec sa voix. Je trouve que même les autres personnages, ils sont bien dans leur rôle, en fait. Et alors, moi, il y a un petit truc, là, je disais à Olivier... En fait, c'est pas la première image. C'est quand Andrew arrive à la grille de la demeure, en fait. Et ben, moi, ça m'a fait penser, en fait, au film de Jacques Demy.
À ce moment-là,
quand on voit le château. Quand on s'approche en fait du château, ben j'ai pensé au château de Podane. Alors je sais pas si j'ai raison, mais enfin voilà. Est-ce que c'était un clin d'œil ? Je sais pas.
Ouais, peut-être. Clin d'œil.
Olivier, toi, est-ce que tu es aussi emballé que Violetta ?
Moi, je parlais de conte de Noël.
Oui, moi je suis d'accord avec toi.
C'est un conte de Noël très pudique, qui a beaucoup, quelque part, beaucoup de charme. Et je parlais d'un duo d'acteurs Binoche Magimel tout à l'heure pour Dodin Bouffon. Voilà, Bouffon, pardon. Ouais, c'est moi le bouffon. Et donc là, il y a le duo, donc oui. John Malkovich, Fanny Ardant, qui, alors eux aussi, ont des carrières à rallonge au théâtre et sur des textes de très haut niveau, les deux. Hein. Et ça se ressent, et je trouve que leur jeu est assez fascinant. Il y a beaucoup, beaucoup de couches. J'ai un peu l'impression. Peut-être que c'est pas en comparaison avec les acteurs, les seconds rôles en quelque sorte, mais j'ai même l'impression que Fanny Ardant et John Malkovich savent très bien dans quel film ils sont et qu'ils en jouent et qu'ils montrent. Mais regardez ce qu'on peut aussi faire. Voilà, et c'est. Moi, je les ai trouvés, les deux, complètement. Fascinant à regarder jouer. Et à réussir dans leur jeu, quoi. Ça, c'est, j'ai trouvé que c'était le point fort du film.
Et ça marche parce que moi, j'étais derrière quatre femmes. Alors moi, j'ai pas lu le livre, mais elles, visiblement, elles avaient lu le livre. Et alors, elles ont été emballées et elles ont adhéré complètement au dialogue. À tel point que c'est exactement ça. Quand elles sont sorties, à un moment donné, elles ont dit... Ouais, c'est vraiment un film, un conte de Noël, voilà.
Une
petite sucrerie. Elle disait qu'effectivement, ce film, en fait, l'année prochaine, eh ben c'est un film que tu peux passer en famille à Noël.
Tu peux emmener tes enfants voir ça. Voilà. Tu crains pas qu'ils voient quelque chose que t'aimerais pas qu'ils voient, quoi, par exemple.
D'accord. Et donc c'est effectivement Gilles Le Gardinier, lui-même auteur du livre, qui a adapté son propre
livre. Au fleuve noir.
Tout à fait.
Complètement cramé. On peut aller le voir pour se faire plaisir en famille, à Aubenas ou au Regain du Teil. Est-ce qu'il y a d'autres films dont vous voulez parler ? Il nous reste juste quelques minutes, c'est extraordinaire.
Quelques secondes.
Oui.
Juste pour remonter dans le temps, effectivement, on parlait de Tran Anh-hung et d'Odin Bouffant. Oui. Ses premiers films en particulier, donc son tout premier film, L'odeur de la papaye verte, et le deuxième ou troisième, je crois, à la verticale de l'été. Cyclo, c'était bien aussi, mais à la verticale de l'été, c'est un petit bijou de sensualité, une histoire de sororité. Trois sœurs, un frère, douceur.
Voilà, donc entre la papaye verte et le pot-au-feu d'Odin Bouffon, il y a un abîme. Hein.
Oui, mais en même temps, Tran Anh-hung parle très souvent de cuisine. Donc dans la papaye verte, c'est pas par
comme
hasard.
Son nom l'indique, oui.
À la verticale de l'été, il y a les petits déjeuners du frère et de la sœur qui sont absolument magnifiques. Donc il y a quand même un lien. Ces deux films, pour moi, sont vraiment... vraiment de très très bons films.
Eh bien, allez au cinéma. Tu voulais peut-être redire un mot. Il y avait Second Tour et Une année difficile.
Une année difficile,
toi, tu as vraiment aimé le film.
Écoute, moi, ça m'a fait un bien fou. J'ai beaucoup ri. Je n'étais pas la seule, d'ailleurs, dans le cinéma, parce qu'on était assez nombreux et tout. Mais bon, pour moi, ça a marché. Alors, René disait que la fille, elle est vraiment traitée comme une cruche, etc. Tout ça, surtout quand elle accueille ces deux bouffons, en fait, on va dire.
Oui.
Mais j'ai trouvé que ça parle de surendettement. Enfin, à un moment donné, quand même, on voit dans l'hôpital toute une galerie là de personnes. Et c'est vrai que quand il parle de ce gars là qui gagne 1600 euros en travaillant dans son aéroport, on comprend qu'effectivement, avec cette société de surconsommation, il soit tombé dans le surendettement. Voilà. Donc, c'est traité avec légèreté et tout. Moi, je trouve que ça fait un film qui fait du bien.
Ouais, je suis d'accord.
C'est humain. Et donc, on a besoin de poésie et tout. Bah, l'écologie, ça peut être aussi un peu fou, mais aussi, on peut accueillir des gens un peu différents.
Mmh. Moi, j'ai trouvé que Nakache et Toledano, là, il donnait... Bon, les écologistes peuvent être vus comme assez ridicules. Mmh. Et en même temps, moi, je les ai trouvés assez convaincants. Et j'ai eu, à un moment, presque envie de les suivre. Et Dieu sait que, tu me connais, Violetta, le militantisme, c'est pas trop mon truc. Mais j'avais presque envie d'être avec eux pour arrêter l'avion dans l'aéroport.
Cette scène-là, elle est chouette.
Mais on peut vous fournir toute une liste de combats, alors.
Oui. D'accord.
Gardez votre esprit, repassez-vous le film en boucle pour maintenir cette envie. Et puis, en attendant, continuons d'aller au cinéma. On se donne rendez-vous vendredi prochain et après, on sera pendant une semaine sur le festival, sur les rencontres des cinémas d'Europe, donc du 18 au 26 novembre. Allez, bon cinéma, merci à toutes et tous.
Ciao.
Merci, ciao.